Bonsoir. En République tchèque, le chef de l'État sortant, le pro-russe Miloš Zeman, arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Alors que le dépouillement touche à sa fin, il obtiendrait presque 40% des voix. Le pro-européen Jiří Drahoš arrive en seconde position. Les détails de notre correspondant Alexis Rosenzweig au début de ce journal. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Vienne, en Autriche. Cet après-midi, ils sont opposés à la politique de la nouvelle coalition entre la droite et l'extrême droite au pouvoir depuis près d'un mois. Le reportage de notre correspondante Isor Yass est à suivre. Pourquoi les négociations de paix avec l'armée de libération nationale, l'ELN, patinent en Colombie? Analyse de Benjamin Delisle dans un instant. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé sur place pour soutenir la réconciliation nationale. Enfin, retour sur la visite surprise d'Edouard Philippe ce matin en Loire-Atlantique. Un Premier ministre qui est venu humer l'atmosphère des lieux avant de prendre sa décision sur le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En République tchèque, les bureaux de vote ont donc fermé. C'était le premier tour de l'élection présidentielle depuis hier. 9 candidats en lice et sans surprise, le chef de l'État sortant, Miloš Zeman, arrive en tête. Quasiment tous les bulletins ont été dépouillés. Au deuxième tour, Miloš Zeman, le candidat pro-russe et pro-chinois, apprécié par une base électorale rurale, affrontera donc Jiří Drahoš, le candidat des citadins pro-européens. Les résultats dans le détail, avec vous Alexis Rosenzweig.
Miloš Zeman remporte avec près de 40% ce premier tour, sans avoir participé à un seul débat, mais en continuant de se présenter comme le candidat du peuple, de la Tchéquie d'en bas, face à l'élite intellectuelle et médiatique qu'il surnomme le café pragois. Ce clivage, Miloš Zeman l'a cultivé avec son style virulent pendant son premier quinquennat, tout en pesant de tout son poids sur l'orientation de la politique étrangère du pays, en étant très favorable au Kremlin et enthousiasmé par l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Contrairement au président américain, Miloš Zeman ne tweete pas, mais il est également maître dans l'art des petites phrases choc et des gros mots, notamment quand il parle des migrants ou de la presse. C'est une rupture totale avec ce style et ses prises de position que prône son adversaire au prochain tour. À 68 ans, le chimiste Jiří Drahoš n'a jamais fait de politique et dirigeait jusqu'à l'année dernière l'Académie des sciences. Il totalise plus de 26% des suffrages, avec de très bons scores à Prague et dans les zones urbaines. Moins charismatique que Zeman, il dit vouloir redonner du prestige à la fonction présidentielle et ancrer davantage le pays dans l'Union européenne et l'OTAN. Malgré l'écart important entre les deux hommes, les chances de l'emporter ne sont pas nulles pour Drahoš, qui devra toutefois se montrer solide dans la campagne du second tour, déjà annoncée comme rude et déterminante pour le futur proche de ce pays d'Europe centrale de 10 millions d'habitants.
Correspondance à Prague d'Alexis Rosenzweig. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Vienne en Autriche cet après-midi. Des citoyens qui ont protesté contre le nouveau gouvernement du chancelier Sébastien Kurz. Le conservateur, âgé de 31 ans, a été investi il y a 3 semaines grâce à une alliance avec un parti d'extrême droite, le FPE, qui compte désormais 6 ministres au sein du gouvernement. La mobilisation de cet après-midi était organisée à l'initiative de plusieurs organisations de gauche et d'associations antiracistes. Le reportage de notre correspondante à Vienne, Isor Yass.
Ils sont des milliers à se diriger en musique vers la chancellerie, car c'est bien la politique du nouveau gouvernement que les manifestants critiquent. Une politique injuste aux yeux de Sarah, qui défile pour la première fois.
Le nouveau gouvernement va pénaliser les gens les plus pauvres. Il souhaite par exemple réduire drastiquement les allocations des chômeurs.
Beaucoup s'inquiètent d'une dérive droitière de l'Autriche et s'indignent des dérapages des ministres d'extrême droite ces derniers jours, notamment sur la question migratoire. C'est pour cela que Dominique est venu manifester.
Herbert Kickl, notre ministre de l'Intérieur, a dit que les migrants devraient être concentrés dans des centres, un mot qui rappelle de sombres heures de l'histoire. C'est une honte, il faut venir protester contre cela.
Mais l'heure n'est pas au pessimisme, les manifestants sont bien décidés à continuer le mouvement dans les mois à venir. Selon Myriam, étudiante, c'est un combat utile.
Il faut bien que quelqu'un parle et dise qu'avec leur politique, on retourne des années en arrière. On n'est plus en 2018, mais en 1918. Tant que les choses n'iront pas mieux, on doit continuer de manifester. Cela pourrait conduire le gouvernement à changer certaines choses.
Cette résistance est toutefois le fait d'une minorité d'Autrichiens. On est bien loin des quelques 250 000 manifestants en 2000, lorsque déjà l'extrême droite était entrée au gouvernement.
Le reportage à Vienne d'Isor Yass. Le géant européen de l'aéronautique, Airbus, dit être engagé dans des discussions avec le parquet de Munich en Allemagne. Les négociations portent sur des soupçons de corruption autour d'un contrat de vente d'avions de combat Eurofighter à l'Autriche en 2003. Airbus espère la clôture de cette enquête. Et puis, le consortium d'aéronautique annonce également dans un communiqué qu'il vient d'être condamné à verser 104 millions d'euros à Taïwan à l'issue d'une procédure arbitrale. Cela concerne la vente de missiles à ce pays en 1992. La paix, encore bien fragile en Colombie. Et pour soutenir le processus de démobilisation des guérillas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en visite dans le pays aujourd'hui. Il doit rencontrer des dirigeants des FARC qui ont signé en 2016 un accord de paix avec le gouvernement. En revanche, aucune rencontre n'est prévue avec les représentants de l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. Bonsoir Benjamin Delisle.
Bonsoir.
Le processus de paix avec la dernière guérilla encore active en Colombie semble avoir du plomb dans l'aile.
Ouais, les négociations devait reprendre mercredi au lendemain de la fin d'une trêve qui durait depuis le 1er octobre. Mais le président colombien Juan Manuel Santos les a immédiatement suspendus. La raison, dès mercredi matin, l'ELN aurait attaqué des soldats à la frontière vénézuélienne, faisant un mort et plusieurs blessés. Une autre attaque a même eu lieu jeudi soir, tuant deux policiers, aussi perpétrés par une branche de la guérilla. Les dirigeants de l'ELN ont pourtant affirmé mercredi vouloir reprendre les négociations coûte ce que coûte. Mais ça n'a pas suffi à convaincre Juan Manuel Santos. Il préfère attendre justement de s'entretenir avec Antonio Guterres aujourd'hui pour relancer ou non le processus de paix.
Pourquoi les négociations de paix avec l'ELN sont-elles plus compliquées qu'avec les FARC ?
Il y a trois raisons principales. La première, c'est que contrairement aux FARC, qui étaient organisées de manière très hiérarchisée, l'ELN est une guérilla plus horizontale. Elle est composée d'une multitude de fronts qui ont tous leur mot à dire. Or, depuis le début des négociations qui ont commencé en février 2017 à Quito, en Équateur, il n'a jamais été possible de réunir tous les fronts pour négocier avec le gouvernement colombien. La deuxième raison, c'est que l'ELN n'a pas cessé les attaques et les enlèvements pendant les pourparlers, notamment contre des infrastructures pétrolières qu'ils accusent de détruire l'environnement. Et puis la troisième, c'est la faiblesse du président Juan Manuel Santos. Il est devenu très impopulaire et cherche donc à signer les accords avant la fin de son mandat en août, alors que le pays est en pleine campagne présidentielle. Et puis en cas de victoire, l'opposition de droite a d'ores et déjà prévenu qu'elle reviendrait sur ces accords.
Merci Benjamin Delisle pour vos explications. En Tunisie, aucune mesure concrète n'est ressortie de la réunion organisée par le président Béji Caïd Essebsi ce matin. Alors que la semaine a été émaillée de manifestations souvent violentes, le chef de l'État a rencontré les partis au pouvoir, la principale centrale syndicale et le patronat. La journée de demain marquera le 7e anniversaire de la révolution qui a mis fin au régime du dictateur Ben Ali. Il y aura de nouvelles mobilisations toujours contre la hausse des prix. En France, Édouard Philippe s'est rendu à l'improviste en Loire-Atlantique très tôt ce matin. Le Premier ministre, qui sort d'une semaine de consultation à Matignon sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, est venu humer l'atmosphère sur le terrain. Il a rencontré les maires des principales communes concernées pour affiner son jugement. Édouard Philippe doit rendre sa décision sur l'opportunité ou non d'un nouvel aéroport d'ici à la fin du mois. Le compte-rendu d'Anne Patinec.
Il faisait encore nuit quand Édouard Philippe est arrivé à Notre-Dame-des-Landes vers 8h moins le quart. C'est par un tweet et trois photos que le chef du gouvernement a fait savoir qu'il était sur le terrain afin de voir et d'écouter, selon ses mots. Cette visite était restée secrète. Le maire Jean-Paul Naud, opposé au projet d'aéroport, qui avait tout de même été prévenu hier soir, l'a reçu en mairie pendant une heure. Il apprécie la démarche car c'est la première fois qu'un Premier ministre se rend sur sa commune. Selon le maire, Édouard Philippe l'a surtout écouté et a posé très peu de questions. Les deux hommes ne se sont pas rendus sur la ZAD. Lors de cette visite marathon, le chef du gouvernement s'est ensuite arrêté à l'hôtel de ville de Nantes pour rencontrer Johanna Roland, la maire favorable au transfert, qu'il avait déjà reçue hier à Matignon. Puis direction Saint-Aignan-de-Grandlieu, près de l'aéroport actuel, où il a échangé avec le maire Jean-Claude Lemasson, également pro-NDDL. À sa sortie, Édouard Philippe a rappelé que la décision concernant le transfert ou non de l'aéroport n'est pas encore prise, qu'elle exige encore quelques consultations. Réponse au plus tard, le 31 janvier.
Les précisions d'Anne Patinec de France Bleu Loire-Océan. Deux jours après l'agression de trois surveillants de prison par un détenu djihadiste de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, les syndicats ont claqué la porte d'une réunion au ministère de la Justice ce matin. Ils réclament le départ du directeur de la prison avant de parler d'autres revendications. Ils précisent aussi que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ne sera pas accueillie sur place mardi si la démission du directeur n'est pas effective. La La météo de votre dimanche matin 14 janvier, une journée encore nuageuse et pluvieuse sur une grande partie du pays, en Aquitaine, en Occitanie. Quelques percées ensoleillées le matin en Île-de-France et Centre-Val de Loire et les températures 0 à Amiens, 1 à Strasbourg, 2 à Lille, 3 à Paris, 6 à Bordeaux et jusqu'à 10 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Anthony Thomasson.